faut dire merde, peut-être, c'est toujours sympa de dire merde. Hein. Les tests, oh, ceux sont d'un autre âge. Il te dit merde, mon cartilage. Les tests, oh, ceux sont d'un...
Bonjour, comme tous les mercredis de 18h à 19h, vous êtes à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et cette émission sera rediffusée mardi matin de 7 à 8 et très bientôt téléchargeable sur le site resf.info à la rubrique radio. Alors pour y aller, c'est très simple, hein, soit vous faites resf.info/radio et vous arrivez directement sur la rubrique radio, soit vous faites resf.info, vous en profitez pour vous balader sur le site. Et vous arrivez donc, vous en profitez pour signer les pétitions, pour glaner toutes les infos que vous pouvez y trouver, et il y en a, et vous trouverez la rubrique radio dans la colonne de gauche, un petit peu plus bas. Et puis, donc ça je l'ai dit, hein, cette émission sera rediffusée mardi matin de 7 à 8. Et puis, on aime bien recevoir du courrier, et donc vous pouvez nous écrire pour nous dire tout le bien ou tout le mal que vous pensez de cette émission. Nous demander d'aborder des précisions, nous demander d'aborder tel ou tel sujet. Et pour ce faire, eh bien, c'est très simple. Soit vous prenez une feuille et un crayon ou un stylo, vous écrivez votre lettre, vous la mettez dans une enveloppe dûment affranchie, vous la postez et c'est adressé à émission RESF, Radio Fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Hein, je répète, émission RESF, Radio Fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris, ou bien vous nous envoyez un mail à resf.fpp@gmail.com. Hein, je répète, resf.fpp@gmail.com. Et tant que vous y êtes, vous pouvez aussi nous envoyer un chèque, petit ou grand, à la radio, libellé à association PARIS, hein, Paris, pour programme associatif radiophonique d'intérêt social, ou bien cliquez sur le bouton faire un don en page d'accueil du site www.rfpp.net, hein, parce qu'il faut quand même pas oublier que FPP émet depuis maintenant 27 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, délivre une information nécessaire et ne fait absolument aucune publicité payante, et qu'on voit en plus nos subventions réduites à peau de chagrin, et que l'écoute est totalement gratuite. Donc, pour vivre, la radio a besoin de ceux qui les écoutent, hein, de nos auditeurs. Donc, vous pouvez nous envoyer un petit peu de sous. Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marine Dehaas. Bonjour, Marine.
Bonjour.
Voilà, donc, j'ai regardé un petit peu dans l'historique des émissions. La première fois que tu étais venue, c'était en 2013. Hein. Tu nous avais parlé à ce moment-là avec Migre Europe de ce qui se passait en Allemagne. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui est très grave, qui est quelque chose qui, en même temps, est absolument révélateur d'une politique européenne en matière d'asile, hein, qui est le règlement de Dublin, hein, puisque donc la CIMAD, hein, j'ai oublié de dire que tu étais de la CIMAD, tu es donc aux affaires européennes de la CIMAD, c'est ça ?
Oui, responsable des questions européennes.
Voilà, responsable des questions européennes à la CIMAD, et donc tu viens de coordonner un rapport qui s'appelle « Règlement Dublin, la machine infernale de l'asile européen ». Voilà, donc on va en parler très vite, hein, très vite après notre petit journal. Tu vas aussi nous dire un mot d'ailleurs sur un autre rapport interassociatif cette fois-ci qui vient de sortir, hein, qui est donc le rapport interassociatif sur les centres de rétention pour l'année 2018. Mais avant, donc quelques petits mots donc pour notre de l'info de la semaine. Hein. Donc on devait recevoir maintenant, en tout début d'émission, un appel de Caroline Maillari du Gisti, mais qui nous appellera un petit peu plus tard, parce que il y a eu un squat qui était occupé essentiellement par un groupe de jeunes opposants tchadiens à Idriss Déby, qui était donc installé dans ce squat. Le squat a été évacué et... il y a donc des audiences, et les audiences se déroulent maintenant. Donc elle nous appellera dès qu'elle aura un trou au milieu des audiences. Et puis quelques nouvelles aussi, donc d'autres nouvelles de la semaine. Donc avec monsieur, donc on avait beaucoup parlé la semaine dernière de monsieur Cassie Germa, hein, qui est papa d'élève de l'école Maurice d'Ocagne dans le 14e. Donc on en avait parlé la semaine dernière avec Renaud Carpi de la FCPE Paris 14e. Et donc pas vraiment de nouvelles, ou du moins pas de bonnes nouvelles pour l'instant, si ce n'est une très forte mobilisation. Donc il est toujours enfermé au centre de rétention administrative du Ménil-Amelot et un avion est prévu pour lui pour vendredi et le consulat d'Algérie lui a délivré le funeste laissez-passer. C'est-à-dire que tant que le consulat n'a pas délivré le laissez-passer ou que la personne n'a pas son passeport avec lui, on ne peut pas déterminer le pays dans lequel on l'envoie. Donc ça offre une relative protection, hein, je dis bien relative. Si le consulat délivre un laissez-passer, la personne peut partir. Donc ne relâche pas la mobilisation et en page d'accueil du site resf.info, vous trouverez un kit de mobilisation avec d'une part le lien vers la pétition, si vous ne l'avez pas encore signé, et un appel à fax et mail. Vers le ministère de l'Intérieur et la préfecture du 92, puisqu'il a été dans le 92, et avec des propositions et de textes, et de numéros et adresses mail où les envoyer. Alors Cassie n'est pas le seul papa ou le seul parent d'élèves parisiens en rétention. Hein. Il y a aussi Ior Stéphanissin qui a deux enfants, dont un est en grande section en école maternelle à Paris. L'aîné est en seconde au lycée à Levallois et il a été arrêté mardi 28 mai à la sortie du métro. Et bien qu'il ait son passe Navigo en règle, il a quand même été arrêté et il est désormais au centre de rétention du Ménil-Amelot. Donc là aussi, hein, il y a une pétition qui est à la rubrique pétition du site RESF et on peut signer cette pétition pour demander sa libération, hein, parce que la place d'un papa n'est pas en rétention, mais auprès de son épouse et de ses enfants. Donc la pétition est en ligne. Et donc ça, tu veux nous dire un mot aussi donc, du rapport interassociatif de la CIMAD. Enfin, oui. De la CIMAD. Donc interassociatif, c'est... Donc, c'est toutes les associations qui interviennent en rétention.
Tout à fait. Donc, c'est un rapport annuel donc, qui sort chaque année à peu près à cette période et qui retrace un peu les éléments majeurs de ce qui s'est déroulé dans les centres et dans les locaux de rétention administrative au cours de l'année précédente. Donc là, c'est le rapport 2018 et qui apporte des éléments d'analyse. Avec à l'appui des statistiques, des témoignages et puis aussi un aperçu global de ce qui se passe en rétention et une approche aussi par centre de rétention pour comprendre aussi quelle utilisation sont faites de ces centres de rétention.
Voilà, c'est donc extrêmement intéressant et pour se rendre compte d'un point de vue un peu global, c'est-à-dire qu'on a tous les chiffres concernant la rétention et les expulsions en France, mais aussi donc une approche centre par centre et avec toutes les informations qui dirigent le centre, les numéros de téléphone des centres, des cabines, des téléphoniques pour contacter les retenus.
C'est ça, pour contacter les retenus et les associations qui interviennent en centre de rétention pour fournir un soutien juridique. Donc ça peut être aussi une ressource importante. Peut-être juste un mot sur la partie analyse. Ce qui ressort en tout cas de ce rapport 2018, c'est une année qui a été marquée par deux réformes législatives qui sont allées renforcer encore cette politique d'enfermement massive, notamment avec une loi qui permet la rétention des personnes dublinées. On y reviendra peut-être après dans le cadre de notre discussion sur le rapport Dublin, mais aussi la loi Asile et Immigration qui, en fait, est quand même venue acter le fait qu'on double la durée de rétention à partir de 2019 et donc que les personnes peuvent maintenant être enfermées jusqu'à 3 mois. Donc voilà, des violations des droits qui continuent à la fois pour des demandeurs d'asile, pour des familles avec enfants, pour des personnes qui risquent des expulsions vers des pays vers lesquels... Elle risque des traitements inhumains et dégradants.
Voilà, et donc ça fait, on parle beaucoup de rétention dans cette émission, et là, on a vraiment un corpus et qui montre bien donc une très très mauvaise évolution finalement de l'état de la rétention en France. Hein. C'est
Oui, tout à fait. Et puis le fait que les autorités depuis des années, mais donc là, c'est vraiment accéléré, on va dire, depuis 2018, souhaite vraiment renforcer le système d'enfermement et de rétention administrative en créant des places, donc des nouvelles places de CRA, de centres de rétention administrative qui sont prévues, et en continuant à enfermer massivement, pas seulement en métropole, mais également en Outre-mer. Et je pense notamment à la situation... à la situation à Mayotte, des personnes qui n'ont... personne n'a rien à faire en rétention, mais particulièrement la France a été condamnée de nombreuses fois pour la rétention des enfants et des familles, et elle continue à placer des familles en rétention en disant qu'elle va simplement adapter les centres à ce type de public. Donc on voit qu'il n'y a absolument pas, il y a une continuité, voire une aggravation de cette politique d'enfermement.
Oui, et ça, donc on en parlait déjà la semaine dernière. Donc une jeune fille de 16 ans fait une tentative de suicide au Ménil-Amelot. Donc il y a une augmentation considérable des tentatives de suicide, qui sont des vraies tentatives de suicide, qui ne sont pas juste des alertes. Trois mois, c'est énorme. Alors quand on a commencé cette émission il y a une dizaine d'années, la durée de la rétention était, alors là je n'ai pas amené la chronologie avec moi, mais était de 6 jours.
On a vu une augmentation successive à chaque réforme de la durée de rétention. Et à chaque fois, non seulement ceci n'est pas du tout basé sur des faits réels, c'est-à-dire on sait par l'analyse statistique des décisions et des libérations et des expulsions que les personnes sont le plus souvent expulsées dans les premiers jours, mais d'augmenter la durée de rétention ne facilitera pas l'augmentation des expulsions. Donc, pour nous, c'est vraiment une mesure de dissuasion, une vraie mesure de punitive, en fait, pour les personnes étrangères qui n'ont pas de statut de titre de séjour en France. Et par ailleurs, sur la question des tentatives de suicide et des cas de violence, des violences sur d'autres personnes ou des personnes contre elles-mêmes, on voit très bien que la situation d'enfermement, elle crée d'énormes problèmes en termes de soucis mentaux, en termes de santé physique aussi, et que de doubler la durée de rétention, l'attente, le fait de ne pas savoir si on va être expulsé ou pas, le fait d'être coupé de sa famille, de son environnement, de son travail, etc., ça met les gens dans des situations de stress psychique très très importantes, avec des conséquences très dures, et également sur les personnes qui interviennent en rétention, puisqu'elles sont face à ces situations de plus en plus violentes.
Voilà, et on parle aussi, enfin ça c'est des... je crois, des personnes qui sont placées sous tutelle par ailleurs, donc ont des problèmes psychologiques ou des problèmes tels qu'elles ne sont pas totalement responsables, qui sont sous tutelle et qui se retrouvent placées en centre de rétention, donc qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits correctement, qu'il y a beaucoup de gens qui devraient être placés en psychiatrie, comme pour la prison d'ailleurs, qui ont des troubles psychiatriques, sont placés en rétention et qu'on utilise les cellules d'isolement pour les gens qui ont des troubles psychiatriques, alors qu'ils devraient être en hôpital psychiatrique, quoi, pas en rétention.
Oui, et puis l'utilisation de la rétention, parfois, comme je disais, comme mesure de dissuasion, et comme pour évacuer des campements, etc. Là, il y a un campement qui a été évacué à Lille, je crois que c'était hier, le campement qui s'appelle 5 étoiles, il y a eu des placements massifs en rétention, à la fois en région parisienne, mais aussi dans les CRA du Nord, ouais. Et on voit bien que c'est une manière pour les autorités d'évacuer un camp, alors même qu'il y a une partie de ces personnes qui seront libérées sous 48 heures parce que le juge admettra qu'il n'y a aucune raison, enfin il n'y a aucune perspective d'éloignement. Donc voilà, c'est voilà.
Donc c'est ça, on aura l'occasion d'en reparler de ce rapport, je pense d'ici 2 semaines, hein, on va consacrer une partie de l'émission à ce rapport, mais donc c'est quand même quelque chose à avoir sous la main, donc on fait comment pour se le procurer ?
Il est téléchargeable sur le site de la CIMAD, donc www.lacimad.org, et il est en page d'accueil en ce moment, sinon simplement dans la rubrique publication, et c'est la dernière publication en ligne.
Voilà. Et puis donc avant de passer donc à Dublin, quand même un petit mot sur ce dont on devait parler avec Caroline Maillary, qui j'espère pourra nous appeler, mais là elle est en audience, à l'audience, enfin, liée à ce dont on devait parler. Hein. Donc c'est il y a depuis plusieurs jours, c'était un collectif d'exilés survivants de la rue qui occupait un immeuble vide depuis 5 ans à Bagnolet. Et ce sont tous tous demandent le droit d'avoir un toit pour ne plus vivre dehors. Et ce sont donc des opposants à Idriss Déby, hein, qui est le président du Tchad. Alors, donc, ils ont présenté aux autorités la preuve que cette occupation durait depuis suffisamment longtemps pour que l'immeuble soit considéré comme leur domicile. Malgré ça, donc, lundi avant-hier, lundi 3 juin, ils ont été délogés avec une extrême violence lors d'une intervention particulièrement dangereuse. Hein. Les forces de police arrivées en nombre à l'aube les ont en effet poussées à se réfugier sur le toit de l'immeuble. La police a ensuite tenté d'interpeller une à une les personnes présentes sur le toit à coups de matraque et de charges régulières. À plusieurs reprises, des exilés se sont retrouvés suspendus dans le vide, tenus par leurs camarades. Hein. L'un d'entre eux ne doit la vie qu'à ses camarades, hein, qui se sont agrippés à son sac à dos, lui évitant une chute de 20 mètres. Une petite structure gonflable avait été installée par les pompiers en bas de l'immeuble, mais celle-ci n'aurait pas empêché le drame. 20 exilés ont été arrêtés et amenés dans deux commissariats. Les derniers ont été violemment frappés, y compris lorsqu'ils étaient à terre, et ont été laissés à la rue. Non seulement ces personnes maintenues à la rue devaient pouvoir bénéficier de places dans les dispositifs d'hébergement d'urgence, on va en parler. Mais ces jeunes hommes, pour la plupart opposants au régime tchadien, devraient également bénéficier d'une protection de la France au titre de l'asile. Encore une fois, l'État démontre que vis-à-vis des personnes migrantes, la seule politique qui tienne est de les pourchasser, les harceler, les dissuader de rester sur le territoire, au point que les personnes qui ne sont pas mortes en mer risquent leur vie une fois arrivées en Europe. Que ce soit à la frontière franco-italienne à Vintimille ou dans les vallées de la Roya, sur les campements parisiens, dans le nord de la France, notamment à Calais. Fichage, murs, visas, camps, expulsions, tels sont les principaux dispositifs appliqués à la lutte contre les risques migratoires. Risque migratoire entre guillemets et en italique, bien sûr. Donc la politique d'immigration est tout entière submergée par une pensée policière négatrice des droits des individus. Trois d'entre les exilés ont été placés en garde à vue à 48 heures, des passes en comparution immédiate. Donc nous demandons évidemment la libération immédiate et la relaxe de ces trois personnes. Et c'est actuellement que se tient l'audience. Donc Caroline Maillari, hein, du Visti nous appellera après l'audience, si l'audience se termine avant la fin de cette émission. Voilà. Et donc je propose qu'on parle maintenant, ou peut-être on fait une toute petite pause musicale en attendant que l'on parle de Dublin. Donc je propose qu'on écoute Aclidé. On écoute un patou, hein, mais Aclidé, c'est facile.
C'est pas facile. À Madame Francine, un verre, rien qu'un verre, et je vais rentrer chez vous. C'est pas facile, l'immigré jamais tranquille. C'est pas facile, à Marseille ou à Belleville. C'est facile, c'est pas facile, l'immigré matchi tranquille. C'est facile, c'est pas facile, je te le jure, monsieur Zindi.